Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance, pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur te convient. Par le biais de ce message, laisse ton esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Merci pour ce jour de jeûne. Merci pour la parole de ce matin. Merci parce que tu nous enseignes tes voies. Inspire-moi les mots que tu veux que je dise à tes fils et à tes filles dans ce lieu. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir favorablement ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir avec des acclamations encore. Alléluia. Amen. Pour ce qui est de la parole de ce jour, nous allons continuer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Trois points sur la mentalité qui va précéder votre distinction. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, je vais citer trois éléments de la parole de Dieu qui vont nous aider à réaliser ce que le Seigneur nous a dit pour l'année 2013. Nous sommes toujours dans le mois de janvier et nous sommes toujours en train de consacrer notre année entre les mains du Seigneur. Et Dieu nous a dit que cette année, quel que soit le vent, les tempêtes, les bruits, il allait nous mettre à part. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes qui surviendront dans la nation, dans ton entreprise, le Seigneur a voulu que vous soyez, que nous soyons des personnes distinguées. Lorsqu'on parle de la distinction, c'est vrai, il y a le côté honneur, mais il y a le côté Dieu fait la différence. Dieu permet à ceux qui le craignent, à ceux qui l'honorent, à ceux qui l'adorent, d'avoir une marque spéciale. Et c'est ce que tu es. Tu es quelqu'un de spécial parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Les choses que je dis sont vraies pour ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus. Si quelqu'un vit dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la tricherie, dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, il n'est pas trop dans mes histoires de trois points. Voilà. Pour que les trois points soient vrais pour lui, il faut d'abord commencer à mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Invoque la grâce de Dieu. Demande au Seigneur pardon, il te pardonnera. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il condamne par contre les œuvres que tu laisses le diable te faire faire. Il les condamne. Il faut que tu t'humilies, il faut que tu les éloignes de ta vie, que tu demandes sa grâce. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, il faut que tu lui donnes ta vie sincèrement. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Et on s'est rendu compte que malgré notre conversion, nous, il arrive souvent que nous soyons atteints, touchés par les drames, par les difficultés qui atteignent aussi la société. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Malgré que ce ne soit pas normal, cela arrive à un grand nombre de croyants, de chrétiens. Pourquoi, malgré notre foi en Jésus, les aléas, les difficultés, les problèmes que traverse la société nous atteignent quelquefois de plein fouet? C'est normal que quelque part, ça nous influence. Mais le Seigneur, dans sa grâce divine, est censé nous donner une position de confort dans des situations troublantes. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, le premier point, nous l'avons étudié dimanche dernier, surtout ici au second culte, parce qu'il y a un décalage entre le premier culte sur le site et ici. Bon, aujourd'hui, on va parler de la même chose. Alléluia. J'ai rattrapé le retard. Amen. Donc, pour que nous soyons distingués, pour que nous soyons mis à part, il y a plusieurs éléments, comme l'humilité, par exemple, dont je ne parle pas. C'est pourquoi j'ai dit trois points. Les trois points ne sont pas exhaustifs. On en a d'autres. Mais le Seigneur a mis à cœur que je parle de ceux-là. Le premier des points, j'ai dit, c'est appeler les circonstances négatives, appelez-les avec un nom qui vous donne du confort. Amen. C'est, si je veux résumer, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le nom ou la façon dont j'appelle un événement a une incidence sur mes émotions. Et si la peur, l'angoisse me remplit, je serai vaincu par la situation qui n'était pas censée me vaincre. Je serai écrasé par une situation qui n'était pas censée m'écraser. Donc pour ne pas être écrasé par une situation qui n'est pas censée me détruire, je dois prendre l'ascendant intérieur dans mon esprit, dans mes pensées. Je dois être plus fort que la chose. Physiquement, elle paraît plus forte que moi, mais dans mon esprit, comme David l'a été face à Goliath, il a été plus fort dans son esprit que Goliath. Physiquement, Goliath était plus fort. Physiquement, les augmentations des prix semblent plus fortes. Physiquement, visiblement, la cherté de la vie semble plus forte que tes entrées, semble plus forte que ta capacité à réagir. Les difficultés au sein de ta famille, les sollicitations semblent plus fortes que ce que tu disposes. Que dois-tu faire face à la situation? Change ta manière de la traiter. Donne un nom. Ceux qui veulent avoir des détails là-dessus, prenez l'enseignement du dimanche dernier. La deuxième chose à faire, alléluia, alléluia, c'est qu'il est important que Dieu fasse croître toutes les choses qu'il vous a données. Amen. À tout point de vue, Dieu doit faire croître. Ok. Ton salaire, je parle d'abord du terre à terre, avant des choses matérielles, pour arriver aux choses spirituelles qui sont les plus importantes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a, sans même la crise, il y a naturellement ce qu'on appelle l'inflation. Tout augmente. Mais nous ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique, les salaires et les entrées ne grandissent pas. Donc, si les choses augmentent, c'est évident que tu vas t'appauvrir. C'est-à-dire, ce que tu pouvais manger il y a quelques mois, tu ne pourras plus te l'offrir. Si avant tu pouvais te faire un petit... Tu prends un petit hamburger quelque part pour te faire plaisir de temps à autre, tu seras obligé de réduire tes visites au hamburger, voilà, et d'augmenter tes visites au garbadrome pour équilibrer la situation. Donc, en ce moment-là, tu deviens victime de l'inflation et victime de l'accroissement des prix. Tu peux être aussi victime émotionnellement. Plus vous devenez adulte, la vie est comme ça, plus vous aurez des sollicitations. Les parents vont vous demander des comptes, vont vous demander des choses. Ils vont vous solliciter vos finances parce que vous devenez responsable. Moi, je te dis, pense aussi à ton village, pense aussi à tes frères, pense à un tel, pense à un tel. Donc, les sollicitations ne diminuent pas. Les sollicitations vont s'accroître. Plus vous allez progresser, plus la vie va évoluer, plus des gens demanderont de votre temps. Votre enfant va dire, papa, reste un peu avec moi. Votre conjoint va dire, ma chérie, mon chéri, reste un peu plus avec moi. Le patron au bureau, il a besoin que vous restez encore un peu plus longtemps pour travailler. Donc, en fait, tout le monde veut un peu plus. Or, vous n'avez que 24 heures. Et 8 heures, où vous êtes un peu actif dans la journée. Que faut-il faire? Si vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ces sollicitations, vous allez souffrir l'angoisse, le stress, vous allez déprimer. Parce que vous vous sentez à un moment donné incapable de répondre à ces nombreuses sollicitations. Est-ce que Dieu a une solution à ce problème? Alléluia. Touche un voisin, dis-lui oui. Et là, il ne s'agit pas seulement de la prière. Il faut prier, mais il faut prier d'une certaine façon. Il faut demander à Dieu, mais il faut le faire d'une certaine façon. Il faut répondre aux besoins de ceux qui nous sollicitent. Si quelqu'un a besoin d'argent, que je peux l'aider, la Bible dit de l'aider. Mais je ne peux pas aider n'importe comment. Je dois aider d'une certaine façon. La façon dont j'aide les gens va déterminer, ou la façon dont je m'investis dans quelque chose va déterminer si je serai vainqueur ou si je serai vaincu. La manière dont j'utilise mon petit salaire de 100 000 francs, la manière dont je dépense, va déterminer si je vais finir le mois en gloire ou si le 10 du mois, ou bien si je serai vaincu par 20 jours de la fin du mois, c'est-à-dire à 20 jours du mois, depuis le 10, je suis down, c'est-à-dire je suis mort même, j'attends la miséricorde. Je fais des avances, patron, avance sur salaire. Donc quand tu fais des avances sur salaire, ça veut dire que tu es vaincu par la situation. Tu n'as pas pris l'ascendant. Pour prendre l'ascendant, il faut que tes 100 000 francs qu'on te donne, qui sont très insuffisants pour répondre à tes besoins du mois. Pourquoi c'est insuffisant? Parce que le riz a augmenté. Pourquoi c'est insuffisant? L'électricité a augmenté. Pourquoi c'est insuffisant?
Tout est devenu plus cher. Le gaz est devenu plus cher. Donc ça devient insuffisant. Avant même, c'était insuffisant. Maintenant, l'insuffisance s'est accrue. Maintenant, Dieu dit que lui te garde et que tu ne manqueras de rien. Or, toi, tu constates qu'au 15, tu manques de tout. Donc, il y a une chose. Soit la Bible est la vérité, soit tu vis un problème. Or, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'il te manque, en fait? Après tes déclarations pour dire, je serai dans la victoire, je triomphe. Qu'est-ce que tu oublies de faire ou qu'est-ce que tu ignores de faire? Et c'est là que vient répondre le deuxième point. Pour avoir la victoire, il faut certes déclarer, c'est-à-dire donner les noms qu'il faut, mais il faut organiser. Il faut mettre de l'ordre. Écoutez, il faut que vous croyez profondément que c'est Dieu qui bénit. Vous le croyez? Il faut que vous ayez la foi que c'est Dieu qui élève. Il faut que vous compreniez que ce dont vous disposez, vous le savez déjà, c'est insuffisant pour réaliser vos projets, mais Dieu est capable de pouvoir. Dieu veut vous faire surnager des problèmes. Vous savez, quand je regarde ma vie, elle est remplie de miracles constants. C'est-à-dire, mes entrées régulières, mes entières habituelles ne peuvent pas gérer mes rêves. Mais je ne compte pas sur elles. Par contre, je fais une chose. Mes entrées, je les organise. Quand je les organise, il se produit toujours un miracle. Et c'est dans ce miracle-là, je veux que vous entriez pleinement. Dans la détresse, je pense qu'on est beaucoup mieux placé pour vivre les miracles de Dieu que ceux qui sont dans l'abondance. Quand quelqu'un est dans l'abondance, il y a un moment, il oublie Dieu. Mais tu es, tu es bloqué le 18 mois, c'est là que tu donnes l'opportunité à Dieu de se glorifier. Parce que Moussa va enseigner aussi, il dit, dans ta faiblesse, c'est là que Dieu se glorifie. Dieu aime ça, c'est ton âge, fini le 10. C'est là maintenant Dieu dit, hé petit, donne-moi la place. Maintenant moi j'ai joué. Jusqu'à présent c'est ton patron qui a joué. Avec le salaire qu'il t'a donné. Malheureusement tu es en train de continuer à le regarder. Et tu vas aller voir avec lui, comment est-ce qu'il peut te faire une avance. Laisse cette affaire d'avance, reste calme, laisse Dieu agir. Maintenant Dieu va te demander quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, quelle est la sagesse de Dieu face à des challenges, à des défis qui dépassent nos entrées et nos avoirs? Quand je parle d'avoir, ne vous limitez pas ou ne limitez pas ce que j'appelle avoir à l'argent. L'argent, pour moi, c'est pas trop important. C'est vrai, tout le monde dit l'argent c'est important, l'argent c'est important. La plupart des prédicateurs le disent. Mais moi, j'ai compris que l'argent n'est pas la chose la plus importante. Il y a des choses qui ont plus de valeur. Et lorsque je m'occupe des choses qui sont essentielles, je vous assure, l'argent, le matériel suit. L'argent a son importance. Dieu vous en donnera, mais pas en toute situation. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais d'abord citer le deuxième point, comment il est formulé. Le deuxième point, donc, pour être distingué, c'est-à-dire surnager, être au-dessus des aléas. La deuxième chose à faire, je l'ai stipulé ainsi, mettez de l'ordre dans vos espérances et investissez selon les priorités divines. Donc, il y a deux choses dans ce deuxième point. Un, mettre de l'ordre. Dis avec moi, mettre de l'ordre. Deux, m'investir dans ce qui est prioritaire. Ça veut dire, lorsque je mets de l'ordre, ça veut dire j'organise mes espérances. Lorsque je les organise, lorsque je les positionne, je dois m'investir. Je dois travailler pour ce qui est prioritaire. Donc, mettre de l'ordre dans mes espérances et m'investir. C'est la deuxième chose à faire. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire dans un premier temps qu'il faut avoir des espérances. J'ai dit ceci, mettez de l'ordre dans vos espérances. C'est quoi l'espérance? L'espérance, ce sont tes souhaits. Ce sont tes désirs. C'est les choses que tu veux voir. Dieu veut que tu aies de l'espérance. Autrement dit, je veux dire simplement, Dieu veut que tu rêves. Dis avec moi, rêver. Je n'ai pas dit d'aller, pas forcément en dormant. Écoutez, la réalité quotidienne a le propre de détruire ou de supprimer ou d'arrêter vos espérances ou vos rêves. La réalité, les difficultés du monde réel amènent quelqu'un qui rêvait d'un avenir radieux, ramène une personne qui rêvait d'un futur radieux, le ramène brusquement au concret du présent. C'est-à-dire, toi, quand tu étais jeune, tu rêvais, tu dis, moi, quand je vais grandir, je serai pilote, je vais aller faire MIT, j'irai à Harvard. Mais la réalité concrète, tes parents n'ont pas l'argent pour te mettre à l'école, ont fait que tu as ramené tes rêves à l'université d'Abidjan, où tu as ramené tes rêves. Dis, mon frère, si j'ai pu avoir le BPC, je vais me chercher, ou bien BTS. Toi qui rêvais à Bad, te voilà revenu à chercher un petit BT. Et tu as tué tes rêves. Dis à un voisin, il ne fallait pas le faire. Dis-lui même, il ne faut pas le faire. Vous ne pouvez pas vaincre les problèmes qui arrivent dans votre quotidien si vous arrêtez de rêver. Le rêve, quelles que soient vos réalités, ne doit jamais disparaître. Pourquoi tu veux le faire disparaître? Ça ne coûte rien de rêver. Tu t'assois et puis tu imagines. Où est ton problème dans rêver là? Qu'est-ce que tu veux? Dieu veut que tu aies des rêves. Est-ce que ce sont les hommes qui ont inventé les rêves? Nous rêvons tous. Pourquoi Dieu a-t-il créé cette fonction? La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Pourquoi Dieu a créé le rêve? Vous pensez juste que c'est pour donner une ambiance à notre sommeil la nuit quand on dort? Il y a quelque chose dans le rêve. Le rêve fonctionne dans le monde invisible. Il crée. Le rêve prédispose les choses qui vont arriver dans le monde réel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tu as envie de voyager. Tu as prévu faire tel projet. Mais les parents arrivent. On a faim. Ta grand-mère est partie à l'hôpital. Ton oncle, parce qu'un chien a mordu. L'a mordu. Il y a des choses. Hein, tu prévois sortir avec ton épouse. Aller au restaurant. Tu t'apprêtes à sortir, on t'appelle. T'es là au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ton oncle vient d'être mordu. Par qui? Un chien dans le quartier. Il faut le soigner. Ah, chérie, on ne peut plus aller au restaurant. Allons soigner. Vous voyez? Et nos petits espoirs sont rattrapés par la vie concrète, la vie réelle, qui vient les couper net. C'est une erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour comprendre le deuxième point, n'arrêtez jamais de rêver. Le rêve est important. Rappelez-vous Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est venu, voilà ce que l'apôtre Pierre a dit aux disciples, a dit à la foule qui l'écoutait. Il dit, rappelez-vous la prophétie de Joël. Elle dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront les vieillards. Des visions. Les jeunes auront des visions. Les vieillards, ils auront des songes. Ça veut dire quoi? Que lorsque le Saint-Esprit se répand, selon la parole de Dieu, il donne des visions, des songes. Les songes sont des rêves. Donc, le Saint-Esprit fait rêver. Alléluia! Lorsqu'il dit les vieillards auront des songes, il n'est pas en train de parler de l'âge. Il parle de ceux qui se sentent fatigués. Le vieillard, c'est celui qui pense qu'il est à la fin de son histoire. Le vieillard, c'est lui qui pense que l'histoire s'arrête là. Il dit, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Le pays est trop dur. Tout ce que je fais, je dois survivre. Parce qu'un vieillard, il compte ses jours avant son départ. Un vieillard est censé ne plus rêver. Un vieillard dit, les rêves sont pour les enfants. Acte des Apôtres dit non. Même quand tu te considères vieillard, je ne parle pas de l'âge cette fois-ci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore jeunes. Tu n'as à peine que 25 ans. Mais tu ne rêves plus. Tu es devenu un vieillard. Les vieillards vivent au jour le jour. Les jeunes gens sont censés voir le futur. Mais il y a des jeunes gens aujourd'hui qui vivent comme des vieillards. Ils vivent au jour le jour. Dieu dit, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair pour donner des songes à ceux qui, dans leur mentalité, sont devenus des vieillards. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde doit rêver. Dis à voisin, rêve. Dis, quel est ton problème? Je sais qu'il y a une dame qui est là. Tellement tu as des difficultés pour payer ton loyer, tu n'as même pas envie de penser que ton enfant va aller faire ses études dans l'une des meilleures écoles au monde. Oh, tu as le droit de faire ce rêve. Quand ton enfant parle, mais maman, je vais aller aux États-Unis, tu dis, hey, petit, ta maman ne sait même pas comment on va manger à midi, et t'as quoi? Hey, les enfants, vous voulez tuer, vous regardez trop la télévision. Rêve avec ton fils, rêve. Rêve. Il y a une soeur, là elle est partie déposer son enfant à l'école, aux États-Unis, une soeur de l'église. Mais elle a appliqué la parole, elle rêve. Quand le fils arrive au bac, elle dit, Seigneur, je dois partir. La façon dont elle a eu le visa, la façon dont le billet a été financé, la manière dont tout est miracle du commencement à la fin. Donc, là, maintenant, elle m'écrit, elle dit, parce que je suis bien arrivé, mon fils a commencé. Je sais que cette dame n'avait pas l'argent dans son compte. Mais malgré cela, quand son enfant parlait, il était en classe de première, il était en classe de seconde, la maman n'a pas tué son rêve. Elle rêvait avec lui. C'est Dieu qui dispose les choses. Mais si la maman arrêtait de rêver pour dire, hé petit, ton papa nous a chassés, nous sommes sans rien. C'est vrai que si on avait les moyens comme avant, sans problème mon fils, je te ferais partir. Mais maintenant qu'on n'a plus d'argent, je suis plus avec ton père. J'ai très peu de moyens. Pardon, hein? Tu vas aller à l'université d'Abidjan. Ce n'est pas un drame d'aller à l'université d'Abidjan. Vive l'université d'Abidjan. Allez à l'université d'Abidjan. Alléluia. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis, réduis ton rêve à cause des problèmes. C'est ça qui est le drame. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il faut rêver. Il faut continuer de rêver. Amen. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Dieu donne des rêves. Parce que le rêve est la première matière de la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on... La démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc la foi espère d'abord. Si tu n'espères pas, tu ne peux pas manifester la foi et obtenir ce que Dieu t'a promis. Amen. Donc dis à un voisin, continue de rêver. Bon, maintenant il ne faut pas faire n'importe quel rêve. Philippiens chapitre 4 dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, honorable, fasse l'objet de vos pensées. Maintenant, donc, je vais aller terre à terre. Pour nous, notre exemple, il faut que juste pour 2013, vous avez certains rêves, juste pour 2013. Vous devez avoir certaines espérances pour faire. Il faut que d'ici la fin de l'année, vous puissiez voir certaines choses dans votre vie. Autorisez-vous à rêver. Ne laissez pas la peur du lendemain, les inquiétudes, atrophier votre rêve. L'espérance est une chose dont, pour laquelle on n'a pas les moyens de réaliser. Or, sans la foi, vous ne pourrez rien obtenir de Dieu. Et la foi commence par l'espérance. Le texte dit, la foi, Hébreux 11:1, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Et l'espérance n'est rien d'autre qu'une forme de rêve. L'espérance est un rêve favorable. L'espérance est une chose qui n'est pas encore arrivée, sinon on ne parle pas d'espérance. Comment pouvez-vous dire que vous avez la foi si vous n'avez pas l'espérance? Parce que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Il faut espérer pour déployer la foi. Espérer, c'est rêver. C'est quelque chose de favorable. Donc, vous devez espérer que fin 2013, vous devez avoir certaines choses dans votre vie. Et cette espérance-là, vous ne devez pas la perdre. Pourquoi? Le même texte de la foi dit ceci. Or, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Qu'est-ce qu'il dit donc? Donc, je peux traduire ainsi. La foi est la ferme assurance de nos rêves. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu demande? La foi ne s'arrête pas seulement au rêve. Si tu rêves, mais que ton espérance de rêve, ton espérance n'est pas fermement assurée, ça ne se produira pas. La foi, c'est la ferme, il faut ferme assurance de quoi? De ce qu'on espère. Donc, il faut espérer, mais ton espérance doit être ferme. Le problème, c'est que les gens espèrent, mais leur espérance n'est pas ferme. Pourquoi on parle de fermeté dans l'espérance? Tout simplement parce que la vie va vouloir arrêter votre rêve. mais il faut le garder fermement. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. C'est ce qui a manqué à l'apôtre Pierre lorsqu'il devait rejoindre Jésus. Jésus dit à Pierre, rejoins-moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je te rejoigne par la foi. Je te rejoins et suis les flots de la mer. Jésus dit, viens. Mes amis, Pierre est sorti de la barque. Quand même, il avait la foi. Tu vois la mer agitée. Sorti de la barque, non mais il devait mettre son pied comme ça. Mais il est descendu. Pierre a eu la foi. Les autres sont restés dans la barque. Ils n'ont même pas fait la prière. Mais Pierre est descendu et il a commencé à marcher. Mais la Bible dit, le vent était fort. La réalité s'est rappelée à lui. La Bible dit, comme le vent était fort, Pierre a eu peur. Et immédiatement, il s'est mis à s'enfoncer. Donc, Jésus s'apprêtait à réaliser totalement la prophétie qu'il a donnée à Pierre. Pierre a commencé à rêver. Il a commencé à marcher pour aller vers son rêve. Mais la réalité du vent a créé en lui de l'angoisse, de la peur. Et au lieu de penser à son rêve, il a commencé à penser à « Et si je mourais maintenant là ?» Ça a coupé net son rêve et ça a coupé en même temps son miracle. Le rêve doit être fermement établi. Alléluia. Le deuxième point, mettre de l'ordre dans vos espérances. Donc il faut avoir de l'espérance. Et mais il faut ordonner votre espérance. Dis avec moi, de l'ordre. De l'ordre. Alléluia. Tu dois continuer de rêver, mais le rêve ne doit pas être en désordre. Je veux voyager, je veux manger, je veux dormir, je veux maison. Tu veux tout, on ne sait pas, tout et rien. Là, tu auras des problèmes. Même si tu es fermement là-dessus, il faut mettre de l'ordre. Pourquoi organiser est si important? Je ne vais pas lire le passage à cause du temps. Dans le livre de Jean chapitre 6, Marc chapitre 6, le texte que j'allais lire c'est Marc chapitre 6 à partir du verset 34. On voit Jésus donner un défi aux disciples. Il dit, il y a une foule qui n'a pas à manger, elle a faim, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, il n'y a pas assez, on n'a pas les moyens pour répondre à cela. Alléluia. En fait, là maintenant, le deuxième point, c'est comment vous allez amener votre rêve. Vous allez le positionner. Alléluia. Jésus donne un objectif. Vous y voyez toute cette foule qui est là, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nourrissez-les. Comment on peut faire? C'est un rêve. C'est un souhait. Il dit, mais ce qu'ils avaient dans leurs mains était incapable de répondre. Ils avaient 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Soit environ un peu plus de 10 000 personnes. Écoutez, ce dont vous disposez en ce moment est toujours insuffisant pour réaliser votre rêve. Sinon, ce n'est pas un rêve. Sinon, ce n'est pas une espérance. Vous me suivez? Si je peux faire ce à quoi je pense, c'est que ce à quoi je pense ne peut pas être classé dans le domaine de l'espérance. Vous me suivez? Si tu sais que le soir, tu vas manger parce que tu as la nourriture à la maison, tu ne dis pas, j'espère manger le soir. Tu dis, le soir, je vais manger. Quand tu veux t'habiller, tu dis, je m'habille. Si tu dis, j'espère, c'est que ce n'est pas sûr que tu puisses manger. Quelqu'un me suit? Si j'ai les moyens de m'acheter une voiture, que je veux prendre une voiture, je ne dis pas, j'espère avoir une voiture. Je dis, je vais prendre la voiture. Donc, quand on utilise le mot espérance, on est simplement en train de placer ce qu'on voit dans un domaine où notre poche, où nos moyens actuels, que nos moyens actuels ne peuvent pas atteindre. C'est ça l'espérance. C'est ça le rêve. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ok. Donc, objectif qui semble inatteignable au vu des moyens dont je dispose. C'est ce que le défi, Jésus donne à ses disciples. Foule de 10 000 personnes à nourrir pour 5 pains, 2 poissons. Je veux aider mon village, je veux construire, je veux envoyer mes enfants dans la même université, je veux faire ceci parce qu'on m'a dit de rêver. Je rêve, mon enfant va aller là-bas, moi-même je rêve, je vais voyager, je vais continuer mon travail aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut partir aux États-Unis. Il y a d'autres pays aussi. Je rêve, je veux aller là-bas, je rêve. Parce que quand il dit de rêver, tout le monde a commencé à rêver. Là. Ouais, moi je vais rêver, pasteur dit, des rêves, je rêve. Ok, donc tu fais des rêves. Jésus dit, nourrissez la foule. Mais le rêve, l'objectif n'est pas atteignable. Lorsque les disciples viennent lui dire qu'ils ont 5 pains et 2 poissons, il leur ordonne ceci. Il dit, la foule qui est là, que vous devez nourrir, faites-la asseoir en ordre, par rangée de 50 et de 100. Donc, avant de multiplier les pains, Jésus a exigé qu'il y ait de l'ordre. Que tout le monde soit assis en ordre. Avant de multiplier le petit salaire que vous avez, le temps que vous avez, les choses dont vous disposez qui sont insuffisantes pour atteindre votre rêve, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu, qui a envie de réaliser ton rêve, va te demander, parce que pour réaliser ton rêve, il faut qu'il multiplie certaines choses que tu as en ce moment. Parce que ce que tu as est insuffisant. Quelqu'un me comprend? Si tu as les moyens d'aller faire tes études à Harvard, tu n'as pas rêvé. Tu t'en vas, tu dis l'année prochaine je vais à Harvard. C'est comme ça on parle. Amen. Mais tu n'en as pas. Oh, Dieu te dit de rêver. Donc tu ne peux pas, tes parents ne peuvent pas, ce dont tu disposes est insuffisant. Dieu te demande de continuer de rêver. Tu dis, Seigneur, le moment on ne peut pas le faire. Il dit, mais c'est pourquoi je suis le Dieu de l'impossible. Sinon, pourquoi je suis Dieu? Je suis Dieu pour régler les problèmes qui sont compliqués. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre toi et puis le païen. Si ton Dieu est trop logique, quelle est la différence? Il est trop dans ce qui est... tout est 1 plus 1 égale 2. Mais c'est pas là, c'est que... Bon, on va aller au paradis, mais sur la terre quand même, il faut qu'il y ait une différence. Que nous réalisons des choses que, naturellement, on n'aurait pas pu faire. Alors, pour réaliser l'impossible, Dieu te demande de mettre de l'ordre. Il faut organiser. Ça, c'est ton devoir. Il a dit aux disciples, mettez de l'ordre. Jésus n'est pas parti mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut asseoir les gens par 50 groupes, des groupes de 50. Il y avait près de 10 000 personnes. Donc, souvent, quand tu dis 50 gars, asseyez-vous, il y a un qui se lève là-bas, qui va aller rejoindre le groupe là-bas. Il dit, non, frère, il y a mon meilleur ami qui est de ce côté. Il faut aller le calmer, l'apaiser. Du petit jeune homme, le maître dit et t'assois. Donc ils ont dû prendre du temps. Il y avait 5000 personnes. Mettre de l'ordre, ça prend du temps. C'est un effort que vous devrez faire sur vous-même. Un effort de ranger certaines choses pour permettre à Dieu de multiplier. Ce n'est pas vous qui allez multiplier vos revenus. C'est Jésus qui va le faire. Il va vous surprendre. Vous allez être surpris. Moi, je m'autorise à rêver sans que j'aie les moyens d'amener mes enfants en vacances. Je m'autorise à rêver. Je voulais aller faire. Aller dans les Caraïbes avec mon épouse. J'ai rêvé. On m'a amené les billets. On m'a invité même. Pris en charge, hôtel, tout ça. Je ne m'interdis pas de rêver. Et ça marche toujours. Alléluia. Dieu est vivant. Amen, amen, amen. Amen. Mais j'applique ce principe dont je vous parle. Mettez de l'ordre. Tiens, voisin, mets de l'ordre. Alléluia. Alors, maintenant, le dernier point du jour. Donc, le point, c'est investissez. Bien, mettez de l'ordre dans vos espérances et investissez selon les priorités divines. Maintenant, j'ordonne comment? Parce que mettre de l'ordre, est-ce que quelqu'un me suit? Mettre de l'ordre, Jésus a dit faire des rangées de 50 et de 100. Concrètement, ça signifie quoi dans la vie? C'est comment je dois positionner chaque chose de ma vie? Quelles sont mes priorités? Je commence par quoi la journée? Je finis par quoi? C'est ça, mettre de l'ordre. Si j'ai de l'argent, je dépense dans quoi d'abord? C'est ça de l'ordre. C'est mettre chaque chose à sa place. Donc s'il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas d'ordre, Dieu ne pourra pas te rendre supérieur au problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Quelqu'un est-il avec moi? Ok, maintenant comment est-ce qu'on organise cette affaire? Je vous invite rapidement à ouvrir vos buts dans le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme, elle était quoi? Dites avec moi, mais dites avec vigueur. Vous avez sommeil? Combien le jeûne vous fatigue? Dites, une femme? Merci. Qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je crois que j'ai surtout le verset 25 ici. Bon. Mais on va au verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et dans Marc chapitre 27, il est dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus, dans cette histoire, nous apprend les lois de l'investissement dans les priorités. Jésus est en train de marcher. Il y a une femme qui le sollicite. Elle le sollicite pour un problème réel. Sa fille est malade et le texte dit quoi? Elle est cruellement tourmentée par des démons. Avant de continuer l'analyse de ce verset, juste vous rappeler, mettre de l'ordre n'est pas évident. Tout simplement, mettre de l'ordre, par exemple, dans vos finances, ça va considérer à quoi? C'est-à-dire, j'ai prévu avec 100 000 francs payer mon loyer, donner la dîme, et puis le pasteur a dit d'acheter le terrain. Moi, j'ai prévu donner 10 000 francs pour l'achat du terrain. Et puis, pendant que je fais mes prévisions, quelqu'un apparaît du village pour m'expliquer un problème. Ou j'ai des sollicitations bizarres qui surviennent subitement dans ma vie. Et ces sollicitations-là amènent toujours mes prévisions à être déprogrammées. Vous me suivez? Mettre de l'ordre, c'est arriver à faire le tri. Et investir prioritairement, c'est faire en sorte que ce qui est nécessaire, ce qui est l'essentiel, c'est ce dans quoi j'investis, quelles que soient les pressions. Alléluia! Alléluia! Vous savez, ce qui est je crois qu'une des choses les plus dangereuses pour les enfants de Dieu, ce n'est pas d'abord le péché même. Le péché est très mauvais, mais le péché est souvent une conséquence d'un désordre. Ce qui peut vous fatiguer, ce sont les bonnes sollicitations. Ça veut dire les gens qui viennent vous poser des problèmes qui sont sérieux. Le désordre rentre dans votre vie. Vous n'arrivez plus à progresser, à multiplier vos entrées parce que vous répondez à des besoins d'autrui auxquels vous n'aurez pas dû répondre. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai expliqué. J'ai dit, Dieu veut multiplier ton temps. Il veut te donner plus de temps. Il veut multiplier l'argent. Il veut multiplier les choses que tu as. Ce que tu as est petit. Tu pries pour qu'il complète. Après le 10 du mois, tu as des difficultés. Tu dis, Seigneur, pourvois. Il ne pourvoit pas. Parce que les 100 000 francs que tu avais, tu as mal investi. Ils ont été désordonnés. Donc ta prière après n'est pas exaucée. Et tu es obligé d'aller t'endetter pour finir le mois. Parce que l'argent, tu n'as rien fait de mal. Tu n'es pas allé en boîte, tu n'es pas parti payer n'importe quoi. Tu as même donné ta dîme, tout ça. Mais pour que Dieu multiplie l'argent, c'est-à-dire, tu peux être là comme ça à l'arrêt de bus. Mes amis, ça marche. Hein? Tu es allé, puis tu regardes, voilà une enveloppe qui est pour toi. Ça marche, vous pouvez comprendre. Ça marche. Mais ce genre de miracle-là, tu arrêtes de les voir. Si le peu d'argent que tu avais, tu l'as mal placé. Et tu l'as mal placé, si des histoires qui n'ont rien à voir. Il y a un oncle qui est apparu avec un mal de tête. Tu as pris l'argent de quelque chose pour aller mettre là-bas. En disant c'est une urgence. Ça peut créer un désordre dans le plan final. Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, Jésus nous explique dans ce passage qu'on vient de lire comment ça fonctionne. Donc, il marche. Il y a une femme qui vient avec un vrai problème. Est-ce qu'elle a un problème, la dame? La Bible dit, je veux qu'on me ramène les textes à l'écran. La Bible dit, la femme parlait. Elle criait, Seigneur, souviens-toi, il y a ma fille qui est cruellement tourmentée par des démons. Le verset dit quoi après? Jésus a fait quoi? Il ne lui a pas répondu un mot. Ça veut dire, la femme crie, Jésus marche seulement. Elle dit, maître, maître. Cher ami, je crois que beaucoup d'entre nous, si c'était les années, disent, Jésus, tu es un peu méchant. Hein? La femme crie après toi. N'es-tu pas Jésus si bon, si doux, si amour? Tu es amour. Jésus marche, il ne répond pas un mot. La femme insiste. On continue le passage. Remonte. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Donc les disciples même se sont approchés de Jésus. Et ils ont dit avec Jésus, renvoie-la, car elle crie de
derrière nous. Mais ça, imaginez l'histoire. Ça serait terrible. Normalement, les disciples, les apôtres, sont censés faire quelque peu la sécurité de Jésus. Ce sont les apôtres qui disent aux gens, non, assieds-toi. Donc, la femme arrive, elle crie. Les disciples sont obligés d'aller dire, regardez le texte, ils ont dit avec instance. Ça veut dire, ils ont vu Jésus, Jésus, nous on te demande pardon. Il faut chasser la femme. Pourquoi? Parce que les disciples eux-mêmes n'ont pas pu la chasser. Donc, la dame, elle criait, Jésus, Jésus, peut-être sur 5 kilomètres, elle crie. Et puis, la Bible dit, elle criait, ah, Jésus, une voix peut-être aiguë, perçante, dangereuse. Ils ont dû envoyer un disciple. Dit à la femme là que c'est bon. Le maître ne lui parle pas, il n'a qu'à le laisser. On dit, madame, laissez. Elle crie encore. Jusqu'à ils ont envoyé tous les apôtres. On dit, bon, si on envoie Pierre et puis Jean, là au moins il va les écouter. Pierre arrive. Parce que Pierre devait être un peu baraqué là, c'est un pêcheur. Donc, à force de tirer les filets, il doit avoir des muscles. Donc Pierre arrive. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous explique là? Elle dit, monsieur, vous vous appelez comment? Pierre, moi je sais Jésus. Jésus! Mais comme il est chrétien, il ne peut pas la frapper. Donc, il est obligé d'être poli. La dame les a embêtés. Moi, je crois que c'est ce qui a dû se passer. Et eux-mêmes, pour finir, ils ont dit, bon, Jésus, comme c'est toi qu'elle cherche là. Parce que quand les gens viennent, je n'ai pas affaire à vous. Moi, c'est Jésus. Tout ce qu'ils lui disent, rien ne l'a découragé. Donc, les esprits sont partis voir Jésus. Maître, pardon. Il faut la renvoyer. Ah, il dit, renvoie-la. Ramène-moi le texte. Il dit, parce que quoi là? Elle crie derrière nous. Et ses disciples s'approchaient, lui dit avec un sens, renvoie-la, car elle crie derrière nous. C'est-à-dire dans leur dos, elle criait. Et Jésus va dire, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas prier pour la dame. Il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici comment Jésus était organisé. La dame avait un problème sérieux, elle avait une difficulté vraie. Mais Jésus explique, il dit, madame, je ne te réponds pas parce que tu n'es pas dans mes priorités. Parce que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu ne t'a pas mis dans mon agenda. Vous trouvez ça méchant? Ça, ce n'est pas la méchanceté, c'est la bonté. Vous voulez être gentil. La gentillesse, je vous le dis mille fois, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il n'y a aucun verset qui dit soyez gentil. Les versets disent par contre, oui. Ça n'existe pas dans la Bible, soyez gentil. Je ne suis pas en train de dire de devenir méchant. La Bible dit, soyez bon. La bonté est différente de la gentillesse. La gentillesse, c'est quelqu'un qui veut répondre à tout le monde. Il veut faire plaisir à tout le monde. Tant il demande, tiens, nanana. Dès que quelqu'un pleure, hein, parce qu'ils sentent que tu es faible, ils vont prendre ton argent pour aller payer la drogue, ils vont prendre ton argent pour aller faire n'importe quoi. Et toi, tu dis oui à tout le monde. Là, tu es gentil. Et tu gaspilles l'argent que Dieu te donne, tu fais n'importe quoi. La bonté, ce n'est pas comme ça. La bonté peut dire non. Parce que la bonté cherche un résultat. La bonté cherche à te faire du bien. La gentillesse cherche à se débarrasser de la personne. Quelqu'un qui est gentil te donne pour que tu ne l'embêtes plus. Quelqu'un qui est bon sait que s'il te donne, ça ne va pas te faire du bien, ça ne va pas te donner. La bonté, vous l'appliquez avec vos enfants. L'enfant dit, je veux des sucreries. Tu sais qu'il va avoir la carie, tu ne donnes pas. Il va pleurer. Un gentil ne peut pas résister aux larmes d'un enfant. Il va toujours prendre le bonbon, quitte à ce que l'enfant ait la carie. Mais l'enfant n'a qu'à se taire. Lui, il est gentil. Puis on dit, tonton gentil, maman gentil, mémé gentil. Souvent, ce sont les grands-mères qui sont comme ça. Les grands-mères sont gentilles, les mamans sont... Ça, c'est le rôle des grands-mères. Les grands-mères, on vous autorise, soyez gentils. On laisse les mamans éduquer les enfants. Alléluia. La gentillesse n'est pas mauvaise, mais ça peut créer beaucoup de désordre dans vos vies. Amen. Donc, Jésus n'est pas gentil, il est bon. Amen. Il dit à la dame, tu n'es pas ma priorité. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu nous dit, il faut avoir des priorités. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Est-ce que Jésus avait l'onction pour guérir son enfant, non? Donc, ce n'est pas parce qu'il a l'onction qu'il va prier pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as du temps que tu dois aller rendre visite à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent dans ta poche que tu dois répondre à toutes les sollicitations. Dieu t'a donné ce bien pour qui? Pourquoi? Pour qui as-tu été envoyé? Vers quoi sont destinées en priorité tes finances? Si tu ne mets pas de l'ordre, tu vas tout perdre. Tu t'appauvris, Dieu ne te multiplie pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient te poser un vrai problème. La dame ne mentait pas. Jésus avait l'onction pour guérir, mais il ne devait pas le faire.
parce qu'il n'a pas été envoyé pour elle. Quelqu'un me comprend? Mettre de l'ordre, c'est savoir faire ce tri-là. Maintenant, demandez-moi comment on fait. Alors, on continue le texte. La dame dit à ceci à Jésus, je n'ai pas inventé, c'est dans la Bible, ok? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Avançons. Il répondit, parce que la femme lui a... Quand Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, le verset 25 dit, la femme s'est jetée aux pieds de Jésus. Et puis, elle a commencé à citer. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter. Écoutez l'expression. Jeter aux petits chiens. Tout argent dépensé, tout temps qui est investi dans ce qui n'est pas votre priorité est un jet. Vous jetez le temps. Parce qu'il ne va pas vous revenir. Tu vas passer 4 heures de temps à encourager une personne. C'est 4 heures dans les 24 heures de temps que Dieu t'a donné comme salaire par jour. Parce que le temps, c'est un salaire que Dieu te donne à dépenser. Et tu vas prendre 4 heures de temps. Pour une personne qui n'est pas ta priorité, c'est du temps jeté. Or, ces 4 heures de temps-là, tu serais resté, tu étais parti dans un petit endroit avec ton garçon, ça aurait été utile parce que ça allait faire grandir son affection et son amour. Mais tu as passé du temps avec Gasparette. 4 heures de temps, du temps jeté. Jésus dit ceci, on ne prend pas le pain des enfants pour le jeter, même pas donner aux petits chiens. Autrement dit, la femme est de la classe des... Ça vous fait mal, mais dites quand même. La femme est de la classe des... Ça fait mal, hein? Maintenant, vous savez que la femme a eu son miracle, non? Vous savez ce qui s'est passé? Elle a compris ce que Jésus, la loi que Jésus appliquait. Et c'est là qu'on tire la leçon. Elle dit, maître, j'ai compris. Mais les petits chiens, là, ils existent et ils sont autour des tables. Même quand les enfants mangent, il y a toujours des miettes. Parce que la dame dit, mais elle dit, oui, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Tu ne vas pas enlever le repas de ton garçon pour donner à un chien, tu as raison, mais les miettes. Donc, elle dit, ce que moi je veux là, c'est miettes. Je dis, ah, si c'est miettes, va, ta fille est guérie. Alléluia. Alléluia. Donc la dame a été guérie et Jésus dit, je n'ai pas vu une plus grande foi. Mais en fait, Jésus nous apprend une grande leçon. C'est que la dame et Jésus nous ont fait vraiment, c'est extraordinaire. C'est que si j'investis sur ce que Dieu me donne en priorité, il y a toujours un reste qui peut guérir les autres. Je ne dois pas sous-estimer le reste de mon temps, le reste de l'argent. Mais je ne dois pas prendre l'essentiel d'une somme qui a été destinée à un objectif précis pour aller le mettre dans quelque chose auquel il n'est pas destiné. Si je le fais, je pêche, même si j'investis dans une bonne chose. Tu as prévu 50 000 francs pour amener ton conjoint au restaurant, ta femme au restaurant. Et puis il y a un homme qui arrive du village. Pana. Petit, on vient de chasser ton papa. On me demande 50 000 francs de loyer. Ton grand-père. Ton oncle sera dehors. Toi, tu as juste 50 000 francs pour la sortie. Tonton a 50 000 francs dont il a besoin pour payer le loyer. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez la sortie avec votre conjoint ou vous donnez l'argent à l'oncle pour qu'il puisse payer son loyer? Bon, on va faire une élection. La vie est simple, dans la vie, il faut voter. Quels sont ceux qui donnent les 50 000 francs à l'oncle? 50 000 francs. Le loyer fait 50 000 francs, la sortie avec... Un oncle. La sortie fait 50 000 francs. Le loyer, 50 000 francs. Tu donnes les 50 000 francs à l'oncle ou tu donnes les 50 000 francs à la sortie avec ton conjoint? On fait les élections et puis on choisit. Qui vote pour l'oncle? Le loyer de l'oncle. Le loyer de l'oncle? Ok. Qui vote pour la sortie avec sa chérie? André à égalité. Qui est bulletin nul, blanc? Bon, l'affaire est compliquée. On a presque match nul. Bon, je laisse la question en suspens et je lis ce dernier verset, ce dernier passage, et avec ça, vous allez pouvoir faire le choix. On va comprendre le principe de choix de Jésus. Qu'est-ce pour, comment Jésus choisit? Luc chapitre 10, verset 40. On peut commencer même au verset 38. Hein? Il est dit, je lis à partir du verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. Non, pardon, on va commencer. Verset 38. Luc 10, 38. On peut remonter à l'écran. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Jésus lui répondit, bon, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, André, je pense pas ça ici. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Au verset 42, il est dit, une seule chose est nécessaire. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Et puis après, Jésus dit au verset toujours, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi quoi? Et puis, notez bien, qui ne lui sera point ôté. Si vous comprenez cette règle, vous saurez faire le choix entre l'oncle qui a besoin de 50 000 francs pour son loyer et la sortie avec votre chérie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ici, on est dans le cas d'une sollicitation encore, de Jésus. Jésus arrive chez deux dames. Marthe et Marie. Marie est une grande adoratrice, elle aime Jésus. Ce n'est pas la mère de Jésus. Hein. Voilà. Ce n'est pas Marie, la maman de Jésus. Donc Marie est là et Marthe choisit de s'occuper de la réception du maître. Il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme. Il faut qu'on s'occupe du maître. Il vient d'arriver de voyage. Mais en même temps, quand on est en train de lui préparer à manger et le servir, Jésus a commencé à enseigner. Marie, la jeune sœur, s'est assise et puis elle a préféré écouter le message. Dis-moi, écouter le message, c'est une bonne chose à faire, non? Donc c'est bien. Servir Jésus, c'est intéressant aussi, non? S'occuper de l'arrivée de Jésus, c'est important. Donc les deux choses sont importantes. S'occuper de Jésus, hein? Recevoir, s'occuper de Jésus ou écouter sa prédication. Voilà deux choses importantes. Aucune des deux n'est péché. Toutes les deux doivent être faites. Sauf que les deux, la sollicitation est immédiate. Jésus, au lieu d'attendre qu'on ait fini de le servir avant de manger, avant de prêcher, il a commencé à prêcher pendant qu'on fait la cuisine. Donc, on arrête la cuisine pour aller le coûter, ou on continue la cuisine et puis après on lui dit de revenir sur le message. Donc, il fallait faire un choix. La vie sera comme ça, mes amis. La vie, les sollicitations ne vont pas vous demander la permission pour venir à l'heure. Elles arrivent à tout moment de manière involontaire. Jamais vous allez arriver à un moment donné où les sollicitations vont vous demander la permission. C'est-à-dire, un problème du village arrive. Puis j'arrivais maintenant. Monsieur, je peux, tu peux t'occuper de moi. Tu dis, attends, dans 4 mois, tu peux venir parce qu'en ce moment-là, j'ai des problèmes à régler. La vie n'est pas comme ça. La vie vous amène plein de devoirs à faire simultanément. Et vous êtes capable de les résoudre tous à la fois si vous mettez de l'ordre. Amen. Mais l'ordre, c'est la clé de Jésus. Jésus dit ceci. Marthe lui dit, dis à ma soeur de venir m'aider. Bon, dites-moi, qui pense que Marthe a raison? Bon, comme Jésus a réprimandé Marthe à la fin, là, tout le monde, sinon dans la pratique, si moi, passe ça en logo simplement, mais j'arrive chez toi, et puis je commence à enseigner. Tu me sers à manger ou tu écoutes le message? En vérité. Moi, je sais que la plupart des mamans, non, sérieusement. Le pasteur doit boire un peu, on doit faire ceci. Voilà. Donc, c'est ce que Marthe a fait. Et Marthe trouvait tellement son choix cohérent et logique, elle a dû faire des signes à sa sœur Marie. Marie, elle va derrière Jésus là. Marie, elle est là. Oh. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle va et la pince. Viens. Elle était lasse. Elle va voir Jésus. Maître, Tiens, ma soeur est venue m'aider. Elle est là. Il y a du travail. Et Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Une chose est essentielle. Waouh, c'est trop fort ce qu'il est en train de dire. Amen. Donc, il y a beaucoup d'œuvres bonnes à faire. Jésus ne dit pas à Marthe qu'elle fait n'importe quoi. Il dit, il y a beaucoup, tu veux répondre à tout. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mon frère, tu n'avances pas parce que tu te préoccupes. Tu donnes tes émotions, ton cœur, ta pensée à trop de problèmes à la fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Mais les problèmes pour lesquels tu t'inquiètes, ils doivent être réglés de toute façon. À la fin du film, Jésus doit manger. Il doit dormir. Donc c'est une réalité. Mais Jésus dit à Marthe, c'est vrai que tu t'occupes de problèmes importants. Mais lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire, une seule chose est nécessaire. Quand vous êtes sollicité par les hommes, par la famille, par tout le monde, sachez retrouver la chose qui est essentielle. Lorsque vous avez beaucoup de rêves pour les ordonner afin que Dieu agisse, il faut faire la seule chose. Il faut vous investir d'abord dans la chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Il faut la trouver. Quand vous la trouvez, mettez vos pensées là-dessus d'abord avant de faire les autres. Si vous n'investissez pas dans la chose qui est nécessaire, vous allez gaspiller votre énergie. Vous allez jeter votre temps, jeter votre argent. Tout le monde demande l'argent. Ton propriétaire veut que tu le payes. Tes parents te demandent de les aider. Tu dois payer l'électricité, ceci. Une seule chose est essentielle. Trouve-la d'abord. Investis en elle. Et puis après, il va te rester suffisamment de miettes pour que tout le monde soit aidé. Et la foi en Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la chose qui est nécessaire? Et on va finir avec. Jésus donne le théorème, la règle. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est quoi la suite de la phrase? Ce qui ne lui sera pas ôté. Donc, voici la loi de Jésus. Jésus nous enseigne que s'il y a beaucoup de choses à faire, si j'ai beaucoup de rêves, je dois commencer à prier. Je dois commencer à m'investir dans ce qui ne sera pas ôté. C'est ce qui n'est pas enlevé qu'on commence à faire d'abord. Après avoir fini de faire ce qui ne doit pas être ôté, on va trouver un reste pour ce qui va partir. Donc, si j'ai deux mouvements à faire, deux rêves à choisir, Jésus te dit, choisis ce qui ne sera pas ôté. Autrement dit, donne à manger aux petits-enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas ôté. Parce que Jésus n'a pas d'enfant biologique. Lorsqu'il a dit, on donne à manger aux enfants, il parlait de sa mission. Votre mission, c'est d'abord de vous investir et de prendre le reste pour donner à ce que la Bible appelle des petits chiens. Les petits chiens, c'est d'autres personnes, c'est d'autres systèmes qui vous sollicitent en même temps que votre vision. Quelqu'un me suit? Quand vous avez une vision, vous aurez toujours des petits chiens autour de la vision. Vous devez faire un tri. Comment le faire? Je choisis ce qui ne sera pas ôté. Alléluia. Alléluia. Ok, on revient sur le vote. Le tonton a besoin de 50 000 francs. Je dois sortir avec mon épouse. Je donne l'argent à qui? À l'oncle pour son loyer ou à ma sortie? Qui a changé de camp? Qui choisit la sortie? Qui choisit le loyer de l'oncle encore? Ah, ça a un peu baissé. Ceux qui ont voté la sortie, vous avez raison. Les autres qui ont voté l'oncle, je vous assure, c'est la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas vos finances. Vous donnez de l'argent à ceux à qui vous investissez là où il ne faut pas vous investir. Ça empêche le miracle d'arriver après. Il n'y a rien qui ne comprend pas. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. La règle de Jésus est vraie. Toujours. Et la vie le montre. Il dit que une chose est prioritaire en fonction du temps qu'elle va passer dans ta vie. C'est ce qu'il dit. Si une chose va vite disparaître de ta vie, elle est secondaire. Donc, ce qui t'est ôté vient en seconde position. Donc, quand j'ai des choix,
je regarde entre celui-là et celui-là. Qui me sera utile dans 20 ans et qui ne m'est utile ou bien qui est important que pour l'instant? Et il faut avoir la foi d'investir selon Dieu dans ce qui va rester le plus longtemps. Au détriment de l'urgence. Car même le reste de l'onction après ça là, va guérir. Mes amis, ça marche. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi je dis cela? L'oncle et ta femme. Sortir dans ta femme, c'est investir dans votre relation conjugale. C'est investir pour votre harmonie. C'est investir pour votre paix. Donner à ton oncle, c'est investir pour maintenant. Ton oncle et ta femme, qui va rester dans ta vie? Qui sera ôté? L'oncle, il s'en va. Ta femme demeure. Ton foyer demeure. Pourquoi tu as rêvé d'un foyer épanoui? Pourquoi ton couple n'est pas épanoui? Tu sais ce que tu as fait? Tu es parti donner aux urgences. Tu n'es plus sorti avec ton conjoint depuis 4 ans. Jamais aucune sortie. Pourquoi? Parce que le jour de à l'heure de la sortie, il y a quelqu'un qui est arrivé. Je suis malade, viens me voir à l'hôpital. J'ai mal à la tête. Au bureau, ton patron te sollicite. Tu as répondu à beaucoup de sollicitations. Et sans t'en rendre compte, ça fait 2 ans que tu n'as même pas amené ta femme à aller manger au restaurant. Mais l'oncle là, peut-être tu n'as même plus le revoir parce qu'il a pris son argent. S'il a eu l'argent après, il ne viendra même plus te saluer. Mais ta femme va demeurer. Mais chaque jour que tu remets à demain vos projets, parce qu'il y a eu des urgences qui ne préviennent pas et qui arrivent, tu ne développes pas, tu ne fais pas progresser ce qui va demeurer dans ta vie. Jésus dit, la priorité, c'est ce qui ne sera pas ôté. Ce qui est secondaire, c'est ce qui sera ôté. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. 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 Et on va terminer. On va terminer. Vous savez pourquoi beaucoup de couples ont des problèmes? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette règle. Moi, je me suis rendu compte que ça marche. Quand je prends le temps de faire plaisir, de toute façon, ma femme, mon papa prend tout mon temps. Ils vont prendre tout mon temps. Quand je le fais, il me reste toujours quelque chose pour autrui. Même si à mes parents, je remets même 10 000 francs. Je prie avec eux. Dieu pourvoit autrement. Vous n'êtes pas omniprésent. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas appelé à répondre à tout le monde. Et Dieu en est conscient. Dieu sait que ce qu'il a mis à ta disposition est insuffisant. Mais il regarde comment tu vas gérer pour faire le complément. C'est lui qui pourvoira pour la suite. Vous comprenez? Jésus n'a pas eu besoin d'aller chez cette femme. Il a juste dit un mot. L'enfant a été guéri de loin. Vous devez avoir cette confiance dans le Seigneur. Que vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas répondre à toute la terre. Vous devez faire un choix. Le choix, c'est les choses que Dieu vous a données en priorité. Il t'a donné quoi? Ton foyer. Quelles que soient tes activités, ta femme va te rester. Je veux même dire ceci, entre ta femme et tes enfants, qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'il prouve? Les enfants seront ôtés. Beaucoup de foyers sont morts parce que quand les enfants sont arrivés avant la naissance des enfants, ils s'aimaient, ils sortaient tout le temps. Quand les enfants sont venus, priorité aux enfants. Vous-même, vous ne développez pas votre amour. Vous-même, vous ne vous faites plus plaisir. Votre existence n'est présente que pour vos enfants. À un moment donné, ta femme demeure. Les enfants atteignent l'âge de la majorité. Ton aîné se marie. Maman, au revoir. Il t'est ôté. Et ta femme n'était pas ôtée. Et quand les enfants ne sont pas vite ôtés, ils restent jusqu'à 30 ans, 40 ans. Ça veut dire, en fait, si tu enchaînes, quoi, à 25 ans, le premier part, mais celui qui arrive, il est né 5 ans plus tard. Donc, entre l'instant où tu t'es marié et l'instant où tu te retrouves seul avec ton conjoint, il peut s'écouler près de 40 ans. Et vous vous rendez compte que vous ne vous êtes plus aimé. Vous n'avez, ça veut dire, vous, dans la maison, vous vous rendez compte que vous êtes des étrangers et que vous n'avez vécu que pour vos enfants. Vous avez passé 30 ans de votre vie que pour les enfants. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Tu n'as pas de raison. Vos seuls sujets d'entretien, c'était les enfants. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'après le départ des enfants, beaucoup de couples divorcent. Parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. Or, au départ, ils n'étaient pas mariés pour des enfants. Ils étaient mariés parce qu'ils s'aimaient. Mais l'erreur, ça a été de mettre, de ne,
de sacrifier leur amour mutuel au détriment des enfants. Il fallait faire les deux. D'abord, entretenir. Et puis, trouver le temps pour les enfants. Entre les oncles qui veulent l'argent et les enfants, on donne chez qui d'abord ? Aux enfants. L'oncle, il s'en va, les enfants demeurent. Et les miettes, l'oncle mange. C'est comme ça votre temps. Maintenant, entre Dieu et puis votre femme. On choisit qui d'abord ? Pourquoi ? Parce que ta femme te sera ôtée à la mort. Quand tu arrives au ciel, Dieu est là. Lui ne te sera pas ôté. Amen. C'est la règle, mes amis. Ça marche tout le temps. Donc, c'est pour ça. Avant toute chose, on prie. Quand on se lève le matin, avant même de dire bonjour aux autres, on commence d'abord par ce qui ne sera pas ôté, par le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais pour moi. On prend le temps dans notre relation qui va être investi sur du long terme. Et puis après, on réduit comme ça. Lorsqu'on prie, regardez la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on prie, on adore d'abord Dieu. Et c'est après qu'on dit, donne-nous notre pain quotidien. Mes besoins sont présentés après. C'est ça l'ordre dans vos espérances. L'ordre, c'est que quand je prie, je ne mets même pas d'argent. Investissez d'abord votre temps, un peu de votre temps, dans les choses qui vont demeurer le plus longtemps de votre vie. Quand vous avez des projets, vous voulez construire une maison dans 10 ans, et il y a des urgences dans le présent, prenez un peu de votre temps. Priez pour la future maison que vous voulez. Vous rêvez que votre enfant parte. L'enfant, c'est important. Il est beaucoup plus important que l'urgence qui vient te dire aujourd'hui, qui frappe à ta porte. Je ne parle même pas d'abord d'argent, mais juste de votre temps. Prenez toujours le moment pour prier pour votre rêve. Dans votre prière, Dieu d'abord, ma famille, mon ministère, mes parents, ainsi de suite. Bon, les parents, les familles, ils peuvent même arriver avant le ministère. C'est juste que vous devez développer l'art d'ordonner vos priorités sur la base de ce qui sera ôté avant l'un ou l'autre. Et de dire, j'ai pas beaucoup de temps, j'investis d'abord ici. Après quoi, je laisse ça pour l'autre. Si vous agissez comme ça et que vous priez, je vous assure, même ceux à qui vous avez donné les miettes seront rassasiés. Dieu n'oubliera pas, parce que c'est sa règle de fonctionnement. On investit sur le long terme avant d'investir sur le court terme. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit dans votre vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Excusez-moi, on a débordé sur le temps. Je veux qu'on prie le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour lui demander de mettre de l'ordre dans tes priorités. Demande-le à Dieu. Père, que ton nom soit béni. Demande la grâce de Dieu. Le Seigneur t'a dit de rêver. Donne-toi l'autorisation d'avoir une espérance, d'avoir des souhaits pour 2013. Je ne te parle même pas de 2020, 2030, parce que même pour cela, il faut que tu aies des rêves. Mais commence déjà par cette année. Autorise-toi. Mais quel genre de rêve tu dois faire? Mets de l'ordre dans tes rêves en les positionnant par ordre. Ne dis pas d'abord, moi avant la fin de l'année, il faut que je sois marié. Ce n'est pas le premier point. Le premier point concerne d'abord ta communion avec ton Créateur. Seigneur, d'ici la fin de l'année, que ma communion avec toi grandisse. Tes premiers sujets, ton premier investissement des 24 heures qu'il te donne, doit être quand tu vas prier pour ce qui est de ta relation avec ton Créateur. Trouve encore du temps et expose à Dieu tes challenges familiaux. Fiançailles, mariage, l'état de ton foyer, l'état de tes relations. Parce que en ta relation avec Dieu et ta relation avec l'homme ou la femme de ta vie, ton Dieu ne sera pas ôté. Investis d'abord sur ce qui va durer pour l'éternité. Tu as d'autres projets pour l'année? Tu souhaites que Dieu t'accorde une voiture? Expose-les aussi. Mais lorsque tu pries, avant même que tu aies l'argent, l'argent n'est pas la première chose, même juste la prière. Parce que la prière est un moyen d'obtention. De même que l'argent aussi nous permet d'obtenir des choses, la prière aussi est un puissant instrument d'acquisition. Juste la prière. Ta prière pour ces sujets va orienter la façon dont Dieu veut que tu investisses dans ces projets. La raison pour laquelle lorsque Dieu te donne de l'argent, il te dit la première chose que tu dois enlever, c'est la dîme. Pourquoi? Parce qu'elle traduit ta relation avec ce qui ne sera pas ôté, c'est-à-dire ton Dieu. Après quoi, il y a les charges conjugales, les charges de la famille. Merci Père pour ta grâce divine, parce que tu nous fais comprendre ces vérités, tu nous les rappelles au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant.
Motivé par cet enseignement, désires-tu plus? Rendez-vous à la librairie ou à l'espace discographique proche de chez toi. Pour d'autres compléments d'information, contacte-nous au 22 41 29 80 02 61 30 63 ou écris-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous t'invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com ou rejoins-nous à l'église Vase d'Honneur. Merci et demeure béni.